23h47 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Julie au 39-21. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Julie avec cette jolie petite voix ?
25 ans.
25 ans et un petit accent aussi.
C'est ça, du sud-ouest.
Un petit accent du sud-ouest, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Julie ?
Eh bien ce soir j'ai appelé pour témoigner de la fâche, je ne sais pas si je peux appeler ça une fâcheuse aventure. Qui m'est arrivé en début d'année.
Oui.
Alors bon, on cherchait à avoir une petite famille avec mon conjoint, donc on avait commencé à essayer depuis novembre et janvier, début février, début de retard. Bon, on se pose des questions, un test de grossesse positif. Voilà, là c'est la joie. Et donc, de suite à la panique, qu'est-ce que je dois faire ? Oui. C'est un peu ça, parce que je suis en Ariège, on n'a pas les parents à côté, donc j'ai dit, mais ça, par où on va commencer ? Et alors, donc, direction le médecin, la prise de sang, tout va bien, c'est bien positif, ok. Et j'ai appelé l'hôpital pour avoir une échographie, comme il disait, de datation. Or, l'hôpital où on est, ils n'en font plus. Voilà. Ils nous ont dit, non, on ne fait pas d'échographie de datation, elle se fait juste au troisième mois. Mm-hmm. Bon, ok. Alors, moi, n'y connaissant rien, j'ai fait, d'accord, alors j'attends. Tant qu'il n'y avait pas, on ne me disait pas de signe d'alerte, etc., je ne devais pas m'alerter. Ok. Puis arrive, en fait, le week-end du 9 mars. Et j'étais à 2 mois et demi, je commençais déjà à avoir le ventre qui s'est dessiné. Et on est retourné chez nos parents. Donc le vendredi soir, on était chez les parents de mon conjoint. Et on a voulu leur faire la surprise en leur disant que, ils allaient devenir grands-parents. Mm-hmm. Mais j'étais pas très bien depuis le matin. Mais voilà, sans m'en préoccuper plus que ça. Et dans la nuit, en fait, j'étais réveillée par d'énormes douleurs, en fait, de grosses douleurs au ventre.
Oui.
Mais vraiment au bas-ventre, et je saignais.
Mm-hmm.
Et là, problème qui se passe. Il est 1h du matin, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on essayait de se calmer, de prendre un spasfon. Ça passait pas, j'essayais de me rendormir, ça me réveillait. J'étais vraiment pliée en deux. Et donc, on appelle les urgences. Et là, on nous dit, venez. Au moins, vous serez tranquille. On va voir ce qui se passe, etc. Bon, alors, on y va. Bon, on se pose plein de questions, quoi, pendant le temps du trajet. Il y avait un peu un silence un peu pesant, presque, dans la voiture.
Oui.
Parce que c'est toujours compliqué. On ne sait pas où on va. On ne sait pas, ce qu'on va avoir. Et alors, on arrive aux urgences, une sage-femme nous accueille super bien. Bon, vous inquiétez pas, ça peut arriver, ça peut être tout comme rien. Bon, d'accord. Alors, on nous installe dans la salle. Bon, écoutez, on appelle le gynécologue de garde pour qu'il vienne. Bon, on attend 20 minutes, une demi-heure qu'il vienne. Et là, on voit arriver un monsieur qui se frotte les yeux, qui baille, qui souffle. Enfin, on sentait que déjà on l'agaçait dès le départ. Puis, il commence à rentrer, en fait, dans le cabinet. Il se prend déjà la lampe de plein fouet, en pleine dans la tête. Bon.
Bon, ça commence
bien. Ça commence bien. C'est ça. Ça, par contre, c'est bien gynécologue. Il regarde mon conjoint, il me dit « c'est pourquoi ?» Il lui dit à lui. Je vais lui dire, je crois qu'il y a un problème. Il me semble que c'est encore moi qui ai l'utérus. Mais bon. Donc, on lui explique que là, j'ai des grosses douleurs, en fait, au ventre, que je saigne, que c'est ma première grossesse, que je ne sais pas, en fait, ce qui se passe et que je ne comprends pas, que je suis perdue. Je pleurais un peu parce que j'étais paniquée. Et alors, il me regarde au temps bas et il me dit, déshabillez-vous le bas. Ok, d'accord. C'est toujours très compliqué sur plein de situations comme ça. Donc, bon, ok, bien, installez-vous sur la table. Alors, bien sûr, très, très glamour, hein, avec les quatre fers en l'air. Puis, sans demander l'autorisation, un avis, il insère le spéculum directement. Et alors, il dit, bon, mais écoutez, ça a l'air joli, parfait, très bien, je suis ravie. Et après, il prend un coton-tige, hop, il le met. Au fait, je vous fais un prélèvement. Ah ben ouais, oui, je vois, je le sens. Ok. Et là arrive le moment en fait de l'échographie, et moi je pensais qu'il allait en fait faire une échographie abdominale.
Mmh.
Et là non, en fait, sans me demander en fait l'autorisation, sans rien me dire en fait comme le reste, il insère et il se tait. Et là, en fait, on a un blanc. Et je crois que je me souviendrai toute cette vie de ce blanc. De ce blanc. Parce que on attend. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on attend. On n'a pas une réponse de sa part et on attend. Et alors, au bout de quelques minutes, c'est moi qui lui demande, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, il en fait, ben rien. Oh, ben, comment ça, rien? Mais vous avez rien, quoi. C'est-à-dire... Mais vous avez un sac vide.
Comment? Un quoi?
Un sac vide.
Il vous a dit ça?
Il m'a dit ça. Et alors, je commence à pleurer. Et j'ai dit, mais c'est-à-dire un sac vide? Mais vous n'avez pas de bébé. Je lui dis, est-ce qu'il y a un bébé? Il dit, mais non. Vous avez un sac vide, il est vide.
Incroyable.
Ok. Ok, donc... Il me dit, mais c'est bon, allez, rhabillez-vous. Bon, alors, on se rhabille, ça bien que mal, mais un peu chancelante parce que je commençais à pleurer toutes les larmes de mon corps.
Vous
avec
m'étonnez.
Un peu de la douleur.
M'étonnez.
Et bien loin, alors on s'assoit devant son bureau. Bon, ben écoutez, vous avez un sac vide, alors bon, il va falloir l'expulser. Là, en fait, vous avez des contractions utérines. Ben, en fait, c'est normal. Bon, d'accord. Bon, alors, je vais vous donner un médicament pour expulser votre sac vide. Et voilà. D'accord. Mais c'est-à-dire, ça va se passer comment? Mais on n'a pas eu le temps de poser toutes ces questions. Il m'a donné le médicament pour expulser mon sac. Un space-fong du space-fong et du dafalgan.
Ah oui, pour mais vous êtes tombé sur un drôle de... Drôle de
ah
gars,
non,
là.
Mais c'est ça. Et alors, il m'a dit, mais c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous.
C'est dingue.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, on n'était pas chez nous. On était à 2 heures de route de chez nous.
Oui.
On est rentré à 3 heures du matin des urgences. Moi, complètement déboussolée. Enfin, mon conjoint, quand on en reparle maintenant, il me dit, mais réellement, j'ai vraiment cru à un vidéogang, le mec. Pourtant, il est habitué, en fait, à tout ce qui est médecin, sauf qu'il est pompier.
Mmh.
Et il me dit, mais non, quoi. Enfin...
C'est pas possible de parler mais... comme ça. C'est horrible.
C'est ça. Mais le pire, c'est qu'il m'a pas dit, en fait, comment ça allait se dérouler. J'ai pris le médicament le samedi, quand je suis rentrée, il doit être à peu près 18h. Et en fait, j'ai eu d'énormes contractions. D'énormes contractions, en fait, parce que j'ai entamé ma 10e semaine. Mais d'énormes contractions, en fait, qui m'ont mis par terre. Je n'arrivais plus, en fait, à... J'étais de la douleur à moi. Hein. Je sais pas comment expliquer. C'était énormément douloureux. J'ai cru mourir et j'ai presque voulu mourir, en fait, pour que la douleur s'arrête tellement que c'était fort.
Ah oui, oui, d'accord.
Parce qu'autant vous dire que le space-fond et la falgang, au bout d'un moment, c'est plus grand-chose. Hein. Voit rien du tout, parce que moi, avec mes règles, déjà, ça me fait rien.
C'est pas spécialement fait pour ça, en plus. Enfin, on en prend quand, je suppose, les règles sont douloureuses, mais pour ce que vous aviez là, ce qui vous arrivait là, c'était... Je ne pense
c'est
pas ça. Que ça c'était adapté à ce que vous aviez. Il vous a laissé repartir comme ça, en plus avec un risque d'hémorragie. Je connais pas grand-chose, mais...
Mais c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Il m'a laissé partir comme ça, et... Mais je te dis, faites une échographie de contrôle quand même dans une semaine. Alors, il m'a laissé repartir sans compte rendu, sans lettre. J'avais juste en fait la photo de l'échographie en fait où on voyait rien en fait. Mais moi, qu'est-ce qu'en fait je pouvais en faire de cette échographie?
De rien.
Concrètement, voilà. Et donc j'ai cru mourir de douleur. Et le dimanche, ça s'est calmé. J'ai pas dormi de la nuit, bien entendu. Malgré que j'avais pris des bains chauds, j'avais une chauchotte sur moi bouillante. Ça. Au bout d'un moment, on a beau faire tout ce qu'on voulait, la douleur est là. Et le lendemain, ça va mieux. Et puis de nouveau, le mal de ventre qui me reprenait, les contractions. Jusqu'au moment en fait, où j'ai concrètement pondu en fait, un œuf.
Alors, on va s'arrêter là et on va marquer une petite pause. Julie, pour voir quelles ont été les conséquences de cette aventure plus choquante quand même pour vous, on laisse passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve tout de suite, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Nous sommes avec Julie qui nous compte cette fausse couche et surtout l'attitude incroyable de ce gynécologue qui vous a accueilli. Alors, il vous a accueilli où ? Aux urgences de quelle ville, Julie ?
Aux urgences de Rodez, en Aveyron.
Ah bah, Rodez encore, on est décidément, ce soir, Rodez est à l'honneur.
C'est ça.
On a eu tout à l'heure...
Oui, j'ai entendu.
Oui, un monsieur de Loïc, de Rodez oui. Aussi. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital de Rodez, là, pour avoir un gars qui parle comme ça, à votre avis ?
Je sais pas. Alors, j'aimerais bien le savoir.
D'abord... est-ce que, avant de savoir comment vous avez vécu ça, parce que j'ai fait un film il n'y a pas longtemps sur les tabous entourant la maternité, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était sur France 5 il y a 4 mois à peu près. Et, ah mais non, je vous dis une bêtise. En fait, j'ai tourné un film sur les tabous justement qui entourent les grossesses et qui passera au mois d'octobre sur France 2. Mais, dans les yeux d'Olivier donc. Mais et justement, c'est vrai que ça m'a passionné tout ça. Je ne partais pas spécialement passionné parce que, bon, bêtement, comme je suis un homme, je me sens. Puis j'ai 56 ans, donc bon, voilà, faire des enfants, ça m'est. Voilà, c'est passé un peu pour moi. Mais c'était passionnant d'écouter toutes ces femmes qui nous parlaient de tout un tas de choses taboues autour de la grossesse et notamment des fausses couches. Mais vous, ça a été encore. Plus loin, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de sac vide, enfin, que voulait-il dire ?
En fait, j'ai pas eu une fausse couche, réellement. En fait, j'ai eu ce qu'on appelle un œuf clair.
D'accord.
Où en fait, la cellule, au départ, c'est pas démultiplié. Voilà, en fait, il y a tout qui s'est développé autour, sauf en fait l'ovaire.
D'accord.
Enfin, l'ovule. Enfin, c'est un peu techniquement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En fait, concrètement, il n'y a pas vraiment eu d'enfant.
Mm-hmm.
Mais c'est pour ça qu'en fait, des échographies de datation, maintenant, en fait, sont super importantes. Ça peut nous moins savoir assez tôt si en fait, on a un œuf clair ou pas.
Mm-hmm.
Mais voilà, en fait, concrètement, je n'avais pas d'enfant. J'avais, un œuf qui ne s'était pas développé. Mais voilà, peut-être qu'on peut le dire aussi d'une autre manière qu'un sac vide.
D'accord, oui, mais complètement. Et donc, est-ce que vous avez tout de même écrit, porté réclamation, mais vous voyez, signalé l'attitude de cet homme parce que...
Alors, je l'ai un peu signalé, mais là, je suis en train d'écrire un mail en fait, à l'hôpital.
Mais
je
oui, vais l'envoyer. C'est scandaleux de parler comme ça. C'est fou.
Mais c'est surtout qu'en plus, il n'a pas prévenu de ce qui allait se passer. Et qui plus est, sur mon arrêt de travail, parce que j'ai été arrêtée quand même une semaine, parce que les douleurs m'ont quand même suivi pendant au moins 4 jours, 3-4 jours, jusqu'au mercredi en fait.
Mmh.
Et en fait, sur mon arrêt de travail, dans ces moments-là, ils ne sont pas obligés de spécifier en fait pourquoi on a un arrêt de travail. Enfin, je pense que bon, il y a aussi un droit de réserve.
Une délicatesse à respecter.
Voilà. Lui, il n'a pas eu la délicatesse. Fausse couche, premier trimestre.
Non, mais il faut impérativement. Alors, il a sûrement des qualités, hein, ce monsieur. Mais En tout cas,
mais pas la psychologie.
En tout cas, pas la psychologie, comme vous le dites. Et pour le coup, vraiment, ce que vous avez vécu est un moment extrêmement délicat à vivre, surtout quand c'est la première fois, en plus, quand on tombe enceinte. Et ça aurait pu avoir des répercussions sur vous. Alors, vous paraissez toute directe, mais à mon avis, ça a dû vous perturber un peu, tout ça.
J'ai quand même été sous antidépresseur.
Ah ben oui, donc voilà.
Pendant une dizaine de jours, quand même. Je suis un peu plus guillerette, mais j'ai toujours un peu l'émotion quand même quand j'en parle.
Ben oui.
Parce que je suis déjà un peu boulimique, donc avec la grossesse, ça allait mieux, on va dire que bon.
Oui, vous faisiez attention.
Voilà, mais là, on va dire que j'ai complètement rechuté. Je suis remontée un poids très compliqué, je ne voulais plus faire sport, de nouveau, je clignotais énormément. Donc c'est vrai qu'en fait, ça m'a entraîné toute une suite en fait, de complications qui a été très compliquée, parce que pareil,
vous m'étonnez. Le
regard sur soi a été très compliqué à vivre. Je me regardais plus de nouveau dans un miroir.
Un sac vide, voilà. En plus. Enfin, comment digérer une telle image, enfin, comment...
Je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'ai cauchemardé pendant 15 jours au moins. De l'image, en fait, où je le vois en train de me dire « Vous avez rien, vous avez un sac vide. » Et en plus, il n'a pas expliqué, en fait, au départ, que c'est neuf clairs.
Oui.
Je l'ai su, en fait, par... parce que j'ai dû prendre rendez-vous pour une échographie de contrôle, une semaine après.
Ailleurs qu'à l'hôpital ou toujours à
Zéro? Mais je l'ai pris à l'hôpital, mais chez moi, en Ariège.
Mmh. Ah oui, puisque vous étiez chez les beaux-parents.
C'est ça. Et alors, bon, il me dit, mais vous n'avez pas de lettres? Non. Vous avez un compte rendu? Non. J'ai dit, si vous voulez, j'ai les photos des échographies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Donc là, en fait, je me suis retrouvée terriblement con. Mais vraiment, je me suis retrouvée, mais je me sentis bête. Parce que je ne savais même pas ce qui s'était passé. Je me suis sentie tellement nulle. Mais je pense qu'on m'aurait mis une gifle. Ça m'aurait même fait moins mal déjà, comme l'a dit. Mais je me suis tellement sentie nulle qu'on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et que j'ai dit, mais je ne sais même pas. Alors, je suis tombée sur un gynécologue après, obstétricien fabuleux en Ariège, qui m'a énormément rassurée, qui m'a expliqué en fait que c'était qu'un œuf clair, qui m'a rassurée, qui m'a dit que en fait, ça arrive à une femme sur trois, quand même, mais que voilà, c'était tabou, donc on n'en parlait pas, donc on ne nous prévenait pas, on nous prévenait de la fausse couche, on ne nous prévenait pas d'un œuf clair, c'est tellement tabou que voilà. Pour une grossesse, ça peut pas être tout rose, mais on nous le dit pas en fait, on nous prévient pas. C'est je sais pas comment expliquer. Je me suis sentie énormément en fait démunie parce qu'en plus on m'a proposé aucun en fait accompagnant psychologique. Mais ça va qu'en fait pour des raisons personnelles, je voyais une psy qui a été fabuleuse et que j'ai pu l'appeler dès le lundi. Mais moi, j'ai de la chance d'être entourée, mais une fille qui n'est pas entourée, qui peut être un peu fragile psychologiquement.
Bien sûr.
Mais en fait, quelqu'un comme ça peut nous faire sauter le pont.
Mais regardez, vous qui êtes équilibrée, qui êtes entourée, comme vous dites, l'impact que cela a eu sur vous, c'est inadmissible. Cet homme mérite vraiment un avertissement sérieux. Parce que la grossesse, c'est quelque chose de tellement formidable, tellement porteur de joie, d'espoir. Et puis, je le rappelle pour vous tous qui nous écoutez, messieurs, vous le savez sans doute, mais combien c'est une aventure pour les femmes quand on pense tout ce qui se passe comme un petit être là se consolide se crée. C'est tellement un truc merveilleux qu'il vous parle d'un sac poubelle, vide, en gros.
C'est ça.
C'est inadmissible.
J'ai l'impression d'être déjà rien du tout, d'être rien du tout, d'être... qu'en fait, que je la merdais plus qu'autre chose. On l'a embêté.
Honte à l'hôpital de Rodez, sur ce médecin. honte sur l'hôpital de Rodez. Ça n'est pas possible d'avoir un collaborateur qui emploie ce type de mots. Et puis, globalement, j'ai envie de dire qu'ils vous reçoivent, qu'ils parlent à votre conjoint, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pourquoi, enfin, tout. Enfin, il a tout enchaîné, cet homme, ce soir-là. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais j'espère qu'il va devoir s'en expliquer vraiment. Parce que, écoutez, s'il a fait ça avec vous, il y a de grandes chances qu'il ait fait avec d'autres futurs jeunes mamans.
Oui, hein, c'est ça. Mais
ça ne peut pas continuer. Quoi.
C'est horrible. Mais c'est pour ça qu'en fait, je voulais en parler ce soir. Enfin, je me dis, peut-être qu'on m'entendra, on ne m'entendra pas. Peut-être que...
Bah, écoutez, il y a entre 245 000 et 280 000 personnes qui écoutent la libre antenne d'Europe 1 tous les soirs et à peu près 700 000 personnes qui passent, vous voyez, qui se branchent. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Donc, vous voyez, ça fait quand même du monde. Et je vous certifie que dès demain, dans les couloirs de l'hôpital de Rodez, ça va un peu murmurer de ce qui s'est raconté ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Croyez-moi, à chaque fois que nous avons évoqué des entreprises, des organismes, même lorsqu'on a évoqué le roi du Maroc, le lendemain, on avait un mail et un appel de l'ambassade du Maroc. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette libre antenne. Et d'ailleurs, j'ai parfois des SMS qui disent « Ah, encore une vieille personne, une personne qui a 80 ». Il y a des personnes de tous âges qui écoutent cette libre antenne. Vous avez 25 ans, Gaëtan, avant vous, on avait 21. Il y a toutes les générations qui écoutent cette libre antenne et tous les corps de métier qui l'écoutent. Et c'est quadrillé de telle manière, on l'a regardé, c'est qu'obligatoirement, je vous le dis, ça va faire du bruit, ce que vous racontez ce soir. Et je pense
mais
que...
J'espère,
vous me direz, hein, Julie, vous me tiendrez au courant,
oui.
Mais je pense que ce médecin va en entendre parler dès demain. Enfin, dès demain, je pense qu'au service des urgences de Rodez, on va se demander qui a eu une telle attitude. Et puis, à mon avis, s'il est coutumier du fait, on ne va pas tarder à savoir qui vous a traité comme ça ce soir-là. Parce que vous voyez, vous étiez toute guillerette. Je comprends cet état de... Vous voulez masquer, mais les conséquences que ça a eu sur vous, c'est dramatique.
On va dire que oui, déjà que bon, ça commence à aller mieux parce que j'ai quand même pas mal, j'ai quelques soucis. Et on va dire que ça a tout déstabilisé.
Comment va votre couple en fait? Est-ce qu'il a été impacté par ça?
Non, parce qu'on en est ressorti même plus fort. On a
très
toujours
bien
cette envie d'avoir un enfant. Donc ça va. Donc ça va, non. C'est un congé pour sa fabuleux.
Il aurait pu avoir des mots en lui disant vous ne vous inquiétez pas, ça arrive de temps en temps, c'est ce phénomène de l'œuf clair, ça ne veut rien dire pour la suite, parce que on sait qu'une grossesse, ça se joue dans la tête aussi beaucoup. Hein. C'est tellement fragile, parce qu'il y a tout autour de nous des gens qui font des enfants et tout se passe facilement. Mais obligatoirement, quand on traverse un épisode comme vous l'avez traversé, on ne peut s'empêcher de se poser des questions après.
On se dit, est-ce que c'est ma faute? Enfin, on s'en veut en fait énormément. En fait, on a honte. J'avais honte en fait d'avoir eu un œuf clair. C'est pour ça que je me regardais plus. On a honte, on se sent sale, on se sent humilié en fait. Déjà de la façon, déshabillez-vous, mettez-vous le bas nu. Puis on ne sait pas en fait, est-ce que c'est un problème génétique en fait? Oui. Mais est-ce qu'au début on croyait que c'était moi? Je croyais que c'était moi. On ne sait pas, parce qu'en plus, c'est un début de grossesse, on ne le sait pas vraiment. On a bu un verre de bière, peut-être. On se dit, mais c'est bon, c'est parce que c'est ça que j'ai tué mon enfant.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment que ce... Enfin, voilà, que ça aille plus loin que ça, cette histoire. Beaucoup plus loin.
Oui, surtout qu'en plus, pareil, il y avait l'histoire. Ben, après, il m'avait fait quand même des prélèvements, un test urinaire. Donc, je voulais avoir quand même les résultats. J'ai dit à Dogo docteur, parce que je suis allée le voir quand même en cours de semaine où j'étais arrêtée, en lui expliquant, voilà, je m'est arrivé ça. J'ai dit, j'ai les échographies, est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait ce qui s'est passé? Parce que j'étais toujours en fait dans l'incertitude, je ne savais toujours pas en fait vraiment ce que j'avais. Je savais juste que j'avais eu un sac vide.
Ouais, enfin,
et,
ouais.
Il m'a dit, mais j'attends le compte rendu. En fait, je veux avoir le compte rendu, les analyses. Il ne les a jamais reçues. J'ai dû téléphoner au moins 3 fois à l'hôpital. Je les ai eues, en fait, j'ai eu le compte rendu et les analyses 3 semaines après. Être passé aux urgences. Mmh. J'ai dit, bon, mais il ne fallait pas être pressé. Ça va. Mais...
Il faut que tout ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour vous, Julie.
Oui, bon, hein, ça va quand même mieux. Je fais quand même du travail là-dessus. Même si des fois, voilà, on se dit, la prochaine grossesse, je ne sais pas comment je vais réagir. Peut-être un peu parano, mmh, en disant qu'il faudra une échographie parce que je ne veux pas revivre en fait, le calvaire. Mmh. Parce que c'est un cauchemar. C'était un cauchemar.
Alors nous avons au 739-21, et je l'en remercie, quelqu'un qui me corrige, et on dit « personne de tout âge » et non pas de tous âges. Merci, monsieur et madame la professeure. Nous prenons avec plaisir ce genre de précision. Personne donc de tout âge. Voilà. Julie, aujourd'hui, comment ça va après ces hauts et ces bas et le regrignotage et tout ça? Vous avez réussi à stabiliser un peu la situation?
Oui, j'ai réussi quand même à stabiliser la situation parce que je suis la chance d'être bien entourée, que ce soit par mes amis proches ou ma famille. J'ai vraiment cette chance-là. Je ne pourrais jamais les remercier comme il faut. Je me suis pas mal remise au sport. Ça a été
ça,
un peu aussi
très bien, très bien, très bien.
Le moyen d'évacuer.
Christiane, au 739-21, vous dit de contacter l'ordre des médecins pour ce gynéco.
D'accord.
Hein, c'est important que vous signaliez tout ça. Bon, bah écoutez, sport, bonne humeur, parce que vous avez l'air d'avoir un très bon tempérament. Et puis, dans quelques mois, peut-être remettre ce projet sur le tapis d'avoir un bébé.
Bah écoutez, oui, bah, peut-être pas attendre un an, mais oui.
D'accord. Bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas vraiment à nous dire comment ça a évolué cette histoire, hein, quelle suite il va y avoir, parce que ça intéresse les personnes de tout âge donc, qui écoutent cette libre antenne. D'accord ?
Avec grand plaisir. Bon, alors, merci beaucoup.
Merci pour votre bonne humeur, merci pour votre témoignage, Julie, et puis ça va aller. Ça va aller, je le sens.
Merci.
Je vous embrasse.
Bah, j'espère. Merci, mes deux mères.
Au revoir.
Au revoir.